Bonjour, cher frère. Il y a 2 semaines, alors que nous profitions de Thanksgiving ici aux États-Unis, une situation très différente se déroulait en Indonésie. Je vais commencer par vous lire un article intitulé Moment horrible où un homme découpe le corps de son frère dans le ventre d'un python de 3 mètres de long. Il y a eu de nombreux cas de pythons qui ont attaqué, tuer et même avaler leurs victimes humaines en entier, alors que les travailleurs se retrouvent à travailler plus près de leurs habitats naturels. Voici le moment glaçant où le corps d'un père de 3 enfants a été découpé dans le ventre d'un python de 3 mètres de long qu'il a avalé tout entier. Ceci est tiré, je crois, du journal britannique The Mirror. Le fermier indonésien et père de 3 enfants, Peko, âgé de 30 ans, était en train de collecter de la sève pour fabriquer du sucre brun lorsque le serpent s'est enroulé autour de son corps peu après le crépuscule, mardi, c'est-à-dire le mardi précédent Thanksgiving, ici en Amérique. Le serpent géant a écrasé le père à mort dans la région de North Lurgency avant de dévorer Peko d'1,50 m. Inquiet pour la sécurité de Peko, son beau-frère, Wawan, est parti à sa recherche mais est rentré chez lui. Il a alors repéré le serpent à l'estomac plein et s'est empressé d'aller chercher d'autres personnes pour l'aider. C'est un danger que tout le monde connaît. Voici une citation de l'un des villageois. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du frère. Je ne peux pas expliquer. Ah, c'est le frère. Je ne peux pas expliquer comment mon frère a été attrapé par l'un d'entre eux. Il était très expérimenté. La police a ensuite confirmé que Peko était à l'intérieur du python et qu'il était mort. Ils ne recherchent personne d'autre en relation avec la mort, et sa famille a été informée. Situation tragique, tragique, quelque chose qui, bien sûr, ne se produira pas dans le royaume, mais qui prépare ce dont nous allons parler parce que cela s'est produit tout au long de l'histoire. L'animal sauvage est attaqué, voire avalé par ces reptiles mammouths. Et cela rend ce que nous allons lire ici dans Matthieu chapitre 12. Si vous vous tournez là, Matthieu chapitre 12, d'autant plus étonnant. Ici, dans Matthieu 12, verset 39, nous lisons ce qui est probablement le plus grand signe ou miracle de l'histoire jusqu'à présent. Matthieu 12, verset 39. Mais lui, Christ, leur répondit, une génération méchante et adultère cherche un signe, et il ne lui sera donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Jonas, en hébreu. Car, comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, laissé pour mort, bien sûr, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront pour juger cette génération et la condamner parce qu'elle s'est repentie à la prédication de Jonas, qui, bien sûr, a survécu à cette épreuve. Il a émergé au bout de 3 jours. Nous le verrons, tout comme Christ a émergé de la terre. Et voici qu'il y a ici un plus grand que Jonas. En parlant de lui-même. Nous nous concentrons souvent sur le signe lui-même, et il est très important. C'était le signe donné, le signe principal que Christ était Christ. Il y a eu beaucoup de signes indubitables. Mais c'est celui que Christ a choisi pour s'adresser à la génération à laquelle il a parlé il y a 2000 ans. Mais nous pouvons glaner encore plus de choses, nous pouvons apprendre du récit de ce précurseur, du fait que Christ est resté dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits. Ce que nous pouvons glaner, ce sont d'autres leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Jonas et de ce qu'il a vécu. C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Quelques-unes des leçons qui se dégagent de ce récit, où cet homme a été avalé tout entier. Mais contrairement à Peko, il a émergé et a été utilisé pour nous donner l'un des livres de la Bible. Nous allons donc nous tourner vers Journeys et commencer par là. Nous allons passer beaucoup de temps dans Journeys aujourd'hui, alors si vous avez un ruban ou un marque-page, vous pouvez le placer au début du livre. Journeys 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Journeys, fils d'Amittai, en ces termes, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Il s'agissait d'une ville remplie d'ennemis d'Israël, et ce prophète de Dieu s'est vu dire par Dieu, « Va dans cette ville. » La tâche n'aurait pas été facile. Cela aurait été dangereux en soi. Qui voudrait aller vers ses ennemis mortels et leur parler, sans parler de leur dire des choses difficiles? Très difficile. Mais c'est la première leçon qui ressort de ce récit et que nous pouvons tirer en tant que chrétiens. Le christianisme consiste souvent à faire des choses difficiles. Le christianisme consiste souvent à faire des choses difficiles. Dieu a demandé à Journeys de faire quelque chose de difficile. Lorsque nous avons été appelés, Dieu nous a demandé de relever un défi. Allez-vous renoncer à la vie que vous menez? Allez-vous vous éloigner de vos connaissances? Allez-vous, peut-être dans certains cas, renoncer à votre carrière si elle interfère avec le sabbat? Allez-vous cesser de fréquenter certains amis qui vous entraînent dans la mauvaise direction? Il était difficile d'entrer dans l'église, mais nous savons que la vie peut être difficile au-delà de l'entrée dans l'église. En général, dans la vie, les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui font des choses que les autres ne peuvent ou ne veulent pas faire. Les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui font des choses que les autres ne peuvent ou ne veulent pas faire. Vous savez, prenez du recul pendant une minute. Ne considérez pas cela à la lumière du christianisme, mais dans d'autres domaines de la vie. Pensez à un athlète olympique. Il y a peut-être quelqu'un qui veut être le plus grand boxeur, ou le plus grand coureur, ou le plus grand sauteur à la perche qui ait jamais marché sur la terre. Cette personne peut avoir la volonté, elle peut vraiment vouloir le faire, mais si Dieu ne lui a pas donné une surabondance de fibres musculaires adéquates, un cœur très efficace ou une structure osseuse dense, elle peut vouloir tout ce qu'elle veut, elle n'y arrivera pas. D'un autre côté, vous pouvez avoir quelqu'un qui est un athlète très développé depuis la naissance, grâce au don que Dieu lui a donné sur le plan physiologique, mais qui est paresseux. Il ne veut pas le faire. D'autres ne peuvent pas le faire. Mais elle s'applique à tous les domaines de la vie. Le leadership. Une personne doit posséder une certaine dose d'intelligence. Il faut avoir une certaine expérience. Le désir et la capacité doivent s'aligner. Nous avons été appelés à une vie qui offre le succès ultime en entrant dans la famille de Dieu. Et nous savons que nous pouvons le faire parce que Dieu ne nous aurait pas appelés si ce n'était pas le cas. Il ne nous mettrait jamais en situation d'échec. Il nous a donné une opportunité extraordinaire et il nous a donné la capacité de réussir. C'est à nous de vouloir accepter cette offre, bien sûr. Mais nous sommes parfaitement en mesure de le faire. Il s'agit simplement de savoir si nous voulons le faire. Si nous voulons faire les choses difficiles qui se présentent à nous, si je peux m'exprimer ainsi. Retournez à Matthieu, et encore une fois, si vous avez un marque-page, il serait utile de le garder à Journeys. Revenons à Matthieu, cette fois au chapitre 7. Ce principe s'applique à tout, aux musiciens. Quelqu'un peut vouloir écrire de grandes chansons, mais s'il n'a pas d'aptitude pour la musique, si Dieu ne lui a pas donné d'aptitude pour la musique, il peut essayer et essayer, et il peut atteindre un certain niveau de succès, mais pas le sommet. D'un autre côté, quelqu'un peut être très doué, mais ne pas vraiment vouloir réussir ou développer son talent. Matthieu 7. Le christianisme consiste souvent à faire des choses difficiles. Verset 13. Entrez par la porte droite. Christ a dit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui s'y engagent. Il est facile de suivre le courant. Il est facile de suivre la voie de la facilité, de prendre les mêmes mauvaises décisions que tout le monde, de se retrouver dans la même situation que tout le monde, parce que la porte est droite et le chemin étroit qui mène à la vie, et qu'il y a peu de gens qui le trouvent. C'est un parcours très précis. Et nous avons reçu le plan pour marcher sur ce chemin étroit, si je peux m'exprimer ainsi. On nous a dit ce qu'était le chemin étroit et on nous a équipés pour marcher sur ce chemin étroit. Nous avons la capacité de le suivre. Nous avons le désir de le suivre. Nous avons la capacité de faire ces choses difficiles qui nous mèneront sur ce chemin très périlleux, si je puis m'exprimer ainsi, en nous attaquant à tout ce que la vie nous réserve. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9. Ce n'est pas seulement un chemin, c'est une course. Paul parle de course. La 9e édition de l'Ecclésiaste parle de la course et donne un aperçu intéressant de la manière dont nous devons la mener. Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces, car il n'y a ni travail, ni artifice, ni science, ni sagesse dans la tombe où tu vas. Je suis revenu et j'ai vu sous le soleil que la course n'est pas pour les rapides. Ce n'est pas toujours la personne la plus rapide qui gagne la course, dit Salomon, ni la bataille au fort. Nous ne sommes pas les plus doués. En fait, Dieu nous dit qu'il appelle beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement doués pour confondre ceux qui le sont, pour dire, regardez, regardez ce que j'ai pu faire avec ces gens dont vous vous êtes moqués dans votre vie. Il peut dire aux masses, regardez, regardez jusqu'où ils sont allés en s'appuyant sur moi. Maintenant, ils vont être vos professeurs. C'est une chose étonnante. C'est une dynamique étonnante qu'il va utiliser pour confondre les puissants. La course n'est pas toujours pour les rapides, ni la bataille pour les forts, ni le pain pour les sages, ni la richesse pour les hommes d'intelligence, ni encore la faveur pour les hommes d'habileté, mais le temps et le hasard leur arrivent à tous. Nous sommes les faibles du monde, mais nous participons à la plus grande course qui soit, et la course n'est pas toujours pour les plus rapides. Il y a un jeu de mots sur cette phrase que j'aime beaucoup. Je l'ai trouvé en préparant ce message. Quelqu'un, dont l'attribution est inconnue, a dit que la course n'est pas toujours pour les rapides, mais pour ceux qui continuent à courir. La course n'est pas toujours pour les plus rapides, mais pour ceux qui continuent à courir. Si l'un d'entre vous a participé à des courses, j'en ai fait une bonne partie, en particulier sur piste et en cross-country, vous savez, tous ceux d'entre nous qui ont participé à une course savent que s'arrêter, est la chose la plus difficile à recommencer. Abandonner, c'est le pire que l'on puisse faire. La course n'est pas toujours pour les rapides, mais pour ceux qui continuent à courir, à avancer, qui, malgré les difficultés de la vie, continuent à avancer, comme le dit le proverbe. Ceux qui sont tout simplement prêts à emprunter le chemin semé d'embûches et à s'y tenir quoi qu'il arrive. Revenons à Jonas. On a demandé à Jonas de faire quelque chose de difficile, tout comme on nous demande de faire des choses difficiles. Il s'agit d'une situation tout à fait unique que Jonas a vécue, mais son exemple doit nous servir de leçon, tout comme toutes les histoires de la Bible. Les récits de la Bible doivent nous enseigner des leçons. Nous pouvons établir des parallèles. Au verset 1 et 2, on a demandé à Jonas de faire quelque chose de difficile. Verset 3, mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il a décidé de ne pas faire ce que Dieu lui demandait. Il descendit à Joppé et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il en paya le prix et y monta pour aller avec eux à Tarsi, loin de la face de l'Éternel. Dieu lui a demandé de faire quelque chose et au lieu de sauter sur l'occasion ou même simplement de parler à Dieu, « Dieu, c'est vraiment difficile. Peux-tu, s'il te plaît, me donner de la force ?» Quoi qu'il ait pu dire, sa conclusion a été d'essayer d'échapper au deal de l'univers en montant à bord d'un bateau, en achetant un billet de train et en quittant la ville, pour ainsi dire. Nous vivons à l'ère laodicéenne. Nous vivons à une époque où les gens pensent qu'ils savent mieux que Dieu. Et nous ne sommes pas à l'abri de cela. Nous pouvons tomber dans le même état d'esprit. Mais ici, John se disait essentiellement, « Je ne vais pas faire ce que Dieu a prévu pour moi. » Qui sait toutes les pensées qui lui ont traversé l'esprit, mais nous voyons sa décision. Et il est évident qu'il a pris une décision terrible. Verset 4. L'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il eut dans la mer creusé une violente tempête, de sorte que le navire fut sur le point de se briser. Il y a eu une réponse immédiate à la terrible décision rebelle de Jonas. Ce qui nous amène à la deuxième grande leçon du livre. Et ces leçons peuvent être décomposées de différentes manières. Vous verrez certaines leçons que je n'ai pas soulignées, ou peut-être que votre façon de voir les choses est un peu différente de la façon dont je l'ai présentée. Il ne s'agit pas, bien sûr, de toutes les leçons du livre de Jonas, mais seulement de quelques grands principes que je voulais souligner et qui, je pense, nous aideront. Cette deuxième leçon du livre est que les épreuves viennent quand il le faut. Les épreuves viennent quand il le faut. Passez au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. John a pris une mauvaise décision. Parfois, dans la vie, nous prenons une mauvaise décision et les fruits de cette décision se font attendre. Nous n'en ressentons pas nécessairement les effets immédiatement. C'est souvent le cas, mais ici, nous avons un compte-rendu en temps réel de la cause et de l'effet lorsqu'il s'agit de désobéir à Dieu. Une épreuve est arrivée, une épreuve douloureuse est arrivée. Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. De plus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On n'échappe pas aux épreuves. Toutes les choses concourent à notre bien. Elles sont là pour notre bien. On ne peut pas y échapper. Matthieu 13. Revenons à Matthieu. Nous verrons tout à l'heure à quel point l'épreuve qui frappe Jonas est désastreuse. Pour l'instant, nous nous concentrons sur le fait que les épreuves arrivent quand il le faut. Matthieu 13, verset 18. On ne peut y échapper. Écoutez la parabole du semeur, dit Christ. Quand quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le méchant et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mais celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, est enthousiasmé par ce qu'il ou elle a entendu. Nous sommes contactés par un grand nombre de personnes qui sont enthousiasmées par ce qu'elles entendent. Mais il est question de ceci ou de cela. Je sais qu'il s'agit d'une application prophétique, mais regardez les choses du point de vue des leçons de base de la vie. Ceci ou cela arrive. L'excitation initiale s'estompe. C'est la différence, à bien des égards, entre être dans cette salle et continuer à faire ce que l'on veut. Marcher sur cette voie large dont nous avons parlé. Marcher sur ce large chemin. C'est la différence. Il n'est pas enraciné en lui-même, mais il subsiste un certain temps. Car lorsque survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il est offensé. Pas si, mais quand. La tribulation et la persécution surviendront. Les épreuves arrivent quand il le faut. Comme nous l'avons déjà mentionné. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et il devient infructueux. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Lui aussi porte du fruit, et il en rapporte 100, 60, et 30. C'est une personne qui a enduré ses épreuves. C'est une personne qui a enduré ses épreuves, qui était prête à faire des choses difficiles à travers ses épreuves. Si je peux marier ces deux premiers points. Dieu construit en nous son caractère. Il veut que nous soyons ses fils et ses filles. Il veut que nous soyons des exemples pour le reste du monde. Il veut que nous lui ressemblions. Il veut nous perfectionner jusqu'à ce que nous soyons Dieu. Mais cela n'arrivera pas si ces épreuves ne viennent pas quand il le faut. Parfois, elles arrivent parce que nous les provoquons nous-mêmes. Mais il y a d'autres fois où Dieu veut simplement développer un certain trait de caractère en nous. Un certain trait de caractère en nous, ou renforcer un certain trait de caractère, ou nous débarrasser d'un certain trait de caractère. Et il nous enverra une épreuve. Peut-être n'avons-nous pas appris à être organisés dans notre enfance. Il peut laisser quelque chose se désorganiser dans notre vie et causer un désastre, et alors nous dirons, d'accord, j'ai besoin d'être organisé. Ce n'est pas nécessairement qu'il voit que nous nous rebellons et qu'il veut nous envoyer immédiatement une épreuve. C'est peut-être simplement pour parfaire sa nature en nous. Mais il y a d'autres fois, bien sûr, comme dans le cas de Jonas, où une épreuve survient à cause de la rébellion, ou parce que nous ne sommes pas aussi proches de Dieu que nous devrions l'être, ou parce que nous avons de dures leçons à apprendre parce que nous sommes peut-être distraits. Dieu ne veut pas que nous soyons la proie de ses pressions, de ses distractions et de ses soucis de la vie dont Christ a parlé. Ils arrivent de toute façon. 1 Pierre 1. Première Pierre. Lorsque nous commettons des erreurs, Dieu est miséricordieux, mais il veut aussi que nous en tirions des leçons. Peut-être des choses qui nous manquent, des choses qui nous empêchent de grandir. 1 Pierre, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon son abondante miséricorde, nous a engendré de nouveau à une vive espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans tache et qui ne se fane pas, réservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut qui doit être révélé au dernier moment. Nous sommes en vie à la fin. C'est une période extraordinaire pour être en vie. Nous cherchons à être parmi les derniers qui partent les premiers. C'est pourquoi vous vous réjouissez, bien que vous soyez encore pour un temps, s'il le faut, dans l'angoisse, à cause de multiples tentations. La vie peut devenir difficile, mais les épreuves arrivent quand il le faut. Afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable éprouvé par le feu, soit trouvée en vue de la louange, de l'honneur et de la gloire, lors de l'apparition de Jésus-Christ. Lorsque l'or est raffiné, il l'est de la même manière qu'il l'a été pendant des milliers d'années. Certains procédés chimiques sont aujourd'hui utilisés, mais dans l'ensemble, si vous avez une grande quantité d'or, vous le raffinez par le feu. On le chauffe jusqu'à un certain point, et l'alliage, s'il contient d'autres métaux ou des impuretés, remonte à la surface. L'escorie s'élève au sommet. C'est la même chose pour l'argent. Ensuite, on les écrème et on les jette, et il ne reste plus que de l'or pur, mais il faut pour cela une chaleur élevée. Le feu des raffineurs. Nous sommes raffinés et construits à travers le processus de la tribulation, le processus de raffinement, qui implique la chaleur. Un Dieu aimant nous veut pur. Un Dieu aimant veut que ces épreuves amènent les scories au sommet, si nous pouvons utiliser l'analogie, afin qu'il puisse les écumer et les jeter, et qu'il reste avec le désir de ses mains. Il ne lui restera que l'œuvre qu'il accomplit en nous. Il nous a donné ses parallèles physiques pour que nous puissions comprendre ce qu'il fait avec nous. Il nous veut précieux. Il veut enlever ses impuretés, et c'est pour cela qu'il utilise les épreuves. Elles doivent venir. Psaume 13. C'est ce qu'il va faire au monde entier. C'est un verset étonnant. Psaume 13. Oui, c'était le psaume 1 à 9. Je m'excuse. Psaume 19, verset 1, 13. Je hais les pensées vaines, mais j'aime ta loi. Tu es mon refuge et mon bouclier. J'espère en ta parole. Éloignez-vous de moi, malfaiteur, car je garde les commandements de mon Dieu. Soutenez-moi selon votre parole, afin que je vive. Verset 1:16. Que je n'ai pas à rougir de mon espérance. Tiens-moi debout, et je serai en sûreté, et je respecterai toujours tes lois. Tu as écrasé tous ceux qui s'écartent de tes lois, car leur tromperie est un mensonge. Tu as rejeté tous les méchants de la terre comme des scories. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Le but ultime de Dieu est un monde où habite la justice. Son but ultime est un monde en paix. Son but ultime est un monde où les gens gardent ses commandements, soit en route vers la vie éternelle, soit finalement avec la vie éternelle, une vie d'harmonie. Et si des gens qui ont toutes les chances de vivre à la manière de Dieu ne veulent pas vivre à la manière de Dieu, il les rejettera de la terre comme des scories. Il traitera ces personnes comme des scories, comme des impuretés qui doivent être éliminées. C'est une image graphique, mais en fin de compte, c'est un acte d'amour. Il ne permettra pas que des personnes comme celles-ci nuisent aux autres pour l'éternité. Il fait la même chose dans nos vies personnelles. Il enlève l'ivraie, les impuretés, les scories. Il va le faire à l'échelle mondiale. C'est facile à comprendre. Il ne permettra pas aux scories de rester. C'est pourquoi j'aime vos témoignages. Ce plan a enthousiasmé David. Il était heureux de pouvoir penser à une époque où il n'y aurait plus de méchants sur la terre, tout comme nous. Notre espoir, bien sûr, est qu'il change. Ils ne savent pas ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. À certains égards, ils le savent, mais ils ne le savent pas encore. Notre ardent espoir est que nous les aidions. Nous les aiderons et ils changeront. Ils répondront, ils réagiront et ils ne feront plus partie de ces déchets. Mais en fin de compte, il y aura un monde en paix. Nous ne pouvons pas attendre cela. Ma chair tremble de peur de toi, et je crains tes jugements. Lorsque nous traversons ces épreuves, que nous les provoquons nous-mêmes ou qu'elles nous sont imposées, parce que Dieu veut que nous apprenions une leçon que nous n'aurions pas apprise autrement, c'est notre réaction qui fait toute la différence. C'est notre réaction qui fait toute la différence. Tout cela est facile à comprendre. Ce sont des concepts faciles à comprendre. Il est facile de revenir en arrière, de lire ces quelques livres et de se remémorer les leçons, de se rafraîchir la mémoire, mais ce qui compte, c'est la façon dont nous réagissons. Acte 9. Saül. Verset 1. Acte 9, 1. Saül. Paul, avant sa conversion, proférant des menaces et des massacres contre les disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour Damas, pour les synagogues, afin que, s'ils trouvaient quelqu'un de cette voie, la voie du christianisme, homme ou femme, il l'amena à lier à Jérusalem. Il était un pharisien si fervent qu'il voulait non seulement corriger les vrais chrétiens, mais aussi les capturer et les traduire en justice. Il voulait les tuer. C'est dire à quel point il était zélé et mal avisé. Il tomba à terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il s'agit d'une épreuve. Cette expérience choquante en était l'avant-garde. Il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est difficile de t'opposer aux aiguillons. Il t'est difficile de t'opposer à moi. » Et lui, tremblant et étonné, dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est l'attitude qu'il a adoptée lorsqu'il s'est rendu compte qu'il s'était trompé et qu'il avait fait quelque chose de mal. « J'ai fait quelque chose de mal. » Il a dit « Dieu, je suis dans une mauvaise voie. Que veux-tu que je fasse ?» Une attitude immédiate de repentance a commencé à se manifester. « Je veux changer. Que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui dit « Lève-toi. » Entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui faisaient route avec lui restèrent muets, entendant une voix, mais ne voyant personne. Saül se leva de terre, et ses yeux s'étant ouverts, il ne vit personne. Ils le conduisirent par la main et l'amenèrent à Damas. Accosté par cette voix venue du ciel, informé qu'il était en rébellion et aveuglé, Saül s'est mis à l'épreuve, mais quelle a été son attitude? Il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? J'ai commis une erreur. Je veux changer. » Il resta 3 jours sans voir, sans manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit en vision, « Anania. » Il répondit, « Maître, voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée droite, et demande à la maison de Judas le nom de Saul de Tarse. Car voici qu'il prie. Il me cherche. » Il a reçu le message de cette épreuve et il a immédiatement changé d'attitude. Il a vu en vision un homme nommé Anania qui entrait et posait la main sur lui pour qu'il recouvre la vue. Anania répondit, « Seigneur, j'ai appris par plusieurs le mal qu'il a fait à tes saints de Jérusalem. Et voici qu'il a reçu des chefs des prêtres le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent son nom. » Anania ne faisait que vérifier que ce type pouvait bien me chasser. Je suis sûr qu'il avait à l'esprit l'intérêt de l'Église, mais il s'agissait sans doute aussi de sauver sa peau. Cet homme s'est littéralement promené et a capturé les frères. « Es-tu sûr que je serai bien en sa présence ?» Mais le Seigneur lui dit, « Va, car il m'a été choisi pour porter mon nom devant les païens, les rois et les enfants d'Israël. Car je lui montrerai les grandes souffrances qu'il doit endurer à cause de mon nom, car tous les serviteurs de Dieu doivent passer par des épreuves. » C'est le premier d'une longue série que Paul a dû endurer, naufrage, coups, jeûnes, vols, attaque d'animaux. La liste est longue dans le chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens. Ce n'est que le début des épreuves qu'il a subies. Pourtant, la façon dont il a réagi à cette épreuve est la raison pour laquelle Dieu a pu l'utiliser pour de grandes choses, tout comme la façon dont nous réagissons aux épreuves détermine en fin de compte la façon dont Dieu peut nous utiliser. Il y a des gens qui s'effondrent face à l'épreuve, qui ne puissent pas leur force en Dieu. C'est profondément tragique, ou pire encore, ils se rebellent. Les épreuves sont inévitables, mais ce qui compte, c'est la façon dont nous y réagissons. La façon dont nous réagissons, franchement, peut déterminer si l'épreuve s'améliore ou s'aggrave. Notre attitude suffit souvent à renverser la vapeur. Si Dieu voit que nous apprenons la leçon, il peut réduire la gravité de l'épreuve. John ne s'est-il retenu la leçon? John chapitre 1, encore une fois, John 1. Nous poursuivons. John ne s'est-il eu une réaction du type « Seigneur, que veux-tu que je fasse lorsque la tempête a pris de l'ampleur ?» Selon la manière dont nous réagissons face à l'épreuve, les choses peuvent empirer ou s'améliorer. Verset 5. Les marins eurent peur. Les compagnons de voyage, ils crièrent chacun à son Dieu, et jetèrent à la mer les marchandises qui étaient dans le navire pour l'alléger. Ils savaient qu'il s'agissait d'une situation de vie ou de mort, la cargaison était sans importance à ce moment-là. Le prophète du voyage n'avait pas vraiment d'importance s'ils allaient tous mourir. Mais John s'est descendu dans les flancs du bateau et il s'est couché et a dormi profondément. C'est une personne unique, n'est-ce pas? Non seulement il s'est rebellé contre Dieu, mais il est capable de dormir à travers cette tempête juste pour s'endormir. Je n'en sais rien. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit, « Que veux-tu dire, ô dormeur? Lève-toi et invoque ton Dieu. Si c'est le cas, que Dieu ait pitié de nous et que nous ne périssions pas. » À l'époque, les gens étaient généralement plus religieux, si l'on peut dire. Chacun invoquait son Dieu pour ne pas périr. Chacun dit à son compagnon, « Venez, tirons au sort, afin que nous sachions à cause de qui ce malheur nous atteint. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. C'est Dieu, bien sûr, qui l'a guidé. Ils lui dirent alors, « Dis-nous, nous te prions, à cause de qui ce malheur est venu sur nous. Quel est ton métier ? D'où viens-tu ? Quel est ton pays ? Et de quel peuple es-tu ? » Il était évident que John c'était la cause de leurs problèmes. Et il voulait des réponses. Il voulait aller au fond des choses. Il savait que leur vie en dépendait. Il leur dit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel. » Eh bien, nous pourrions dire en quelque sorte. Je veux dire, il est au milieu d'une grande rébellion. Mais je crains le Seigneur, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. Ce qui nous amène à la leçon suivante, la grande leçon suivante. C'est que notre exemple est très important. Notre exemple, l'exemple que nous donnons est très important. Dans un sens, John nous donnait un mauvais exemple. C'était pour le plus grand dessein de Dieu. Je veux dire qu'il devait être avalé par ce poisson. À moins que Dieu, après qu'il ait été avalé par le poisson, n'ait choisi d'en faire une leçon. Ce n'est pas comme si John s'était destiné à se rebeller contre Dieu. Il avait le choix d'agir correctement dès le début. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais Jonas a eu l'occasion d'être un exemple pour ses marins. Dans un sens, il a professé, « Je crois au vrai Dieu et je le crains. » Et ils ont pu voir que quelque chose était différent chez cet homme. C'était un prophète de Dieu et ils en ont pris bonne note. Car son exemple était très important, tout comme le nôtre l'est. Verset 10. Les hommes furent saisis d'une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ils savaient qu'ils s'étaient enfuis de devant le Seigneur par ce qu'il le leur avait dit. Ils étaient religieux et ils ont senti que quelque chose était différent dans cette situation. Je veux dire, regardez ce qui se passait. Ils pouvaient voir qu'un être divin bien réel était en colère. Il savait qu'il devait y avoir quelque chose dans ce Dieu que John se servait. Ils lui dirent alors, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme devant nous ?» En effet, la mer se déchaînait et était agitée. L'épreuve ne cessait de s'aggraver. Car John ne se repentait pas. Il persistait dans cet état d'esprit. Remarquez qu'il n'a pas crié à Dieu en disant, « Dieu, je me repens. Je suis désolé. » S'il te plaît, laisse ces hommes tranquilles. Je ferai ce que tu m'as demandé. Rien de tel. Et il m'a dit, il leur a dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. La mer se calmera pour vous. Car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est sur vous. Dans un sens, c'est un peu un acte désintéressé. D'accord, je ne veux pas vous faire de mal. Jetez-moi à la mer. Mais ce n'est toujours pas ce que Dieu attendait. Le procès doit donc se poursuivre. Néanmoins, les hommes ont roulé dur pour la mener à terre. Ils craignaient probablement de jeter cet homme de Dieu à la mer. Mais ils ne purent le faire, car la mer se déchaînait et s'agitait contre eux. C'est pourquoi ils regardent ce qu'a fait l'exemple de Jonas. Regardez ce que notre exemple peut faire. Peut-être pas immédiatement dans la vie, mais à long terme. C'est pourquoi ces marins, ces hommes qui, il y a quelques instants, priaient tous ces dieux païens étrangers qui ne pouvaient rien pour eux, ont crié vers le Seigneur. L-O-R-D majuscule. Ils ont crié vers le vrai Dieu, sur la base de cette brève interaction avec Jonas, et ont dit, « Nous t'implorons, Seigneur. Nous t'en supplions. Ne nous laisse pas périr pour la vie de cet homme et ne nous impose pas un sang innocent. » En d'autres termes, nous allons accepter l'offre de Jonas et nous allons le jeter à l'eau. S'il te plaît, ne sois pas fâché contre nous. Ne nous impute pas un sang innocent, car tu as fait, ô Seigneur, ce qui t'a plu. Ils prirent donc Jonas et le jetèrent à la mer. Vous savez, peut-être qu'ils voulaient juste couvrir leur risque avec cette prière, mais il semble que cela leur ait réussi. Ils le jetèrent dans la mer, et la mer cessa de s'agiter. Et les hommes craignirent beaucoup le Seigneur. Pas Jonas, les hommes. Ces marins non convertis qui n'avaient probablement jamais été en contact avec le vrai Dieu ou quelqu'un représentant le vrai Dieu. Ce seul exemple, ce seul cas extraordinaire a conduit à un navire rempli de convertis qui ont malheureusement jeté par-dessus bord le seul homme qui aurait pu leur apprendre quelque chose de plus sur Dieu. Alors les hommes craignirent énormément le Seigneur, lui offrirent des sacrifices et firent des vœux. Il n'est pas bon de faire des vœux, c'est une autre question, mais ils étaient zélés. Ils avaient vu un vrai pouvoir. L'exemple de Jonas. L'exemple que Dieu leur a montré par l'intermédiaire de Jonas a fait une impression durable, 1 Pierre 3. Il s'agit d'un exemple extrême, mais ils ont pu voir que Jonas était différent. Et j'ose dire que ceux que nous connaissons, les membres de notre famille, nos amis, les gens, le personnel de l'hôtel lors de la fête, qui que ce soit, peuvent voir que nous sommes différents. Et ils ne demandent pas automatiquement à venir à l'église ou à prier le vrai Dieu sur la base de nos interactions avec eux. Encore une fois, il s'agit d'un exemple extrême qui enseigne des leçons précieuses, mais qui a un impact réel. 1 Pierre 3 et verset 13. Qui est celui qui vous fera du mal si vous êtes des adeptes du bien? Demande Pierre. Il ne peut rien nous arriver de grave. Je veux dire, même si nous perdons notre vie physique, cela n'a pas d'importance dans le grand schéma des choses, dit-il. Qui est celui qui vous fera du mal si vous êtes des adeptes du bien? Mais si vous souffrez pour la justice, il dit aussi que si vous vivez une bonne vie, vous ne souffrirez pas. Vous n'êtes pas une menace pour le gouvernement ou pour qui que ce soit d'autre. Il y a aussi un élément de cela. Mais si vous souffrez pour la justice, vous êtes heureux, ne craignez pas leur terreur et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et crainte à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Notre exemple peut parfois susciter une question. C'est ainsi que j'ai été appelé. L'exemple de quelqu'un m'a amené à poser des questions, et j'ai appris qu'il existait une église qui cherchait à obéir à Dieu. Le reste appartient à l'histoire, comme le dit l'adage. Cette personne était prête à me donner une réponse, et j'ai obtenu une réponse satisfaisante, qui m'a finalement conduit ici. Nous apprenons par l'exemple. Vous vous souvenez de quelqu'un, peut-être un professeur particulier, un parent ou qui que ce soit d'autre, qui vous a influencé au début de votre vie. Vous avez admiré cette personne. Vous cherchez à imiter certaines caractéristiques de cette personne. Les gens apprennent intrinsèquement par l'exemple, Romains, chapitre 15. Romains, chapitre 15. Romains 15 et verset 4, Paul écrit, « Tout ce qui a été écrit autrefois l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation des Écritures, nous ayons de l'espérance. » Une grande partie des écrits du passé étaient des récits, des exemples, des personnes que nous pouvions décider de copier, ou des personnes qui désobéissaient à Dieu et que nous pouvions décider de ne pas copier. Le livre de John est l'un de ces exemples. Nous examinons une histoire et en tirons des leçons. La Bible est pleine d'exemples que Dieu nous donne pour que nous en tirions des leçons. Tout ce qui a été écrit autrefois l'a été pour notre instruction. 1 Corinthiens, 10e verset. Je ne veux pas non plus, frères, que vous ignoriez que tous nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous traversé la mer, qu'ils ont été baptisés selon Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. En effet, ils buvaient à ce rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais Dieu n'a pas été satisfait de beaucoup d'entre eux, car ils ont été renversés dans le désert. Ils avaient de mauvais exemples. Or, ces exemples étaient les nôtres, afin que nous ne recherchions pas les mauvaises choses, comme ils les recherchaient eux-mêmes. Ne soyez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'asseyait pour manger et boire, et se levait pour jouer. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme l'ont fait quelques-uns d'entre eux, qui tombèrent en un jour au nombre de 23 000, 3 000. Ne tentez pas Christ, comme l'ont fait quelques-uns d'entre eux, qui ont été détruits par les serpents. Ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent, et furent détruits par le destructeur. Toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'échantillon, et elles sont écrites pour notre instruction. C'est pourquoi, que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Ils ont donné de mauvais exemples. D'autres ont donné de bons exemples. Mais Dieu fait de nous les exemples ultimes pour toute l'humanité qui a vécu ou qui viendra après nous. Il va dire, « Regardez ce que j'ai fait avec ces gens particuliers. Regardez comment ils ont vaincu. Regardez comment ils ont grandi. Regardez comment ils ont fini par entrer dans ma famille. Vous pouvez avoir cela aussi. Mais ce que nous faisons en ce moment peut avoir un impact très réel sur ceux qui nous entourent. Les membres de la famille, les amis, les connaissances, les gens que nous voyons à l'épicerie et que nous ne reverrons jamais au cours de cette vie physique. Cela peut avoir un impact très réel, comme nous le verrons dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Nous devons nous démarquer de cette génération tortueuse et perverse, comme l'appelait Paul. Mais nous allons passer à 1 Pierre 2. Nous devons être des enfants de Dieu irréprochables au milieu de cette génération. 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, pour publier les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce peuple, qui autrefois n'était pas un peuple, est aujourd'hui le peuple de Dieu, qui n'a pas obtenu miséricorde. Nous étions dans la même catégorie que les autres, mais nous avons maintenant obtenu la miséricorde. Chers amis, je vous demande d'être des étrangers et des pèlerins. Nous sommes maintenant les vedettes de ce monde. Un pèlerin fait un voyage. Le pèlerin est un étranger dans le pays où il se rend. Le pèlerin apporte un mode de vie différent. Nous sommes maintenant des pèlerins et des étrangers sur cette terre. Nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Avoir une conversation et une conduite honnête parmi les païens, parmi les incroyants qui nous entourent. Nous devons être un exemple pour eux. Nous devons être irréprochables. L'honnêteté élémentaire nous distingue dans la vie actuelle. Les bonnes manières, toutes les facettes d'une vie à la manière de Dieu. Le respect des autres êtres humains. Ces petites choses, en particulier au milieu de la génération tortueuse et perverse dans laquelle nous nous trouvons, vont très loin aujourd'hui. Elles nous distinguent vraiment. Votre conversation et votre conduite sont honnêtes parmi les païens, alors qu'ils parlent de vous comme de malfaiteurs. Ils pourraient dire, « Ah, cette religion de fous !» Ils vont à l'église le samedi, bla, bla. Quoi qu'ils en disent, ils parlent de nous comme de malfaiteurs, mais eux, c'est à cause de vos bonnes œuvres. C'est par vos bonnes œuvres qu'ils verront, qu'ils glorifieront Dieu au jour de la visite. Ces petites interactions ou peut-être ces interactions fréquentes avec la famille et les amis où nous ne sommes pas prêts à plier, mais en même temps, nous avons un caractère droit, nous sommes aimants, nous sommes gentils, nous sommes l'exemple que les autres voient. Nous sommes un exemple du mode de vie de Dieu pour ces gens. Ils s'en souviendront et glorifieront Dieu au jour de la visite. Notre exemple est très important. Et non seulement ils glorifieront Dieu au jour de la visitation, mais imaginez-les dire, « Oh là là, vous savez quoi ? J'ai été vraiment méchant avec cette personne, mais elle a pris la bonne voie, et maintenant elle est mon professeur, et elle ne m'en veut pas. » Imaginez comment nous préparons des gens comme cela à la réussite en étant ces étrangers et ces pèlerins qui vivent de bons exemples dans ce mode de vie. Nous ne voulons pas être des paillassons. Ce n'est pas ce que je préconise. Nous devons défendre ce qui est juste, mais ils respecteront cela aussi. Nous devons simplement le faire d'une manière chrétienne. Soumettez-vous donc, à cause du Seigneur, à toutes les ordonnances des hommes, soit au roi en tant que souverain, soit au gouverneur en tant qu'envoyé par lui pour la punition des méchants et pour la louange des bienfaisants. Car c'est la volonté de Dieu que, par la bienfaisance, vous fassiez taire l'ignorance des hommes insensés. En agissant bien, en donnant le bon exemple. Non pas pour qu'ils commencent à prier Dieu comme dans le cas de Jonas, mais oui, pour qu'ils commencent à prier Dieu comme dans le cas de Jonas. Mais il y a un délai. Il y a un délai. Un jour viendra où ils se réveilleront, pour ainsi dire, et où notre exemple aura un impact très réel. On pense à tous les gens, même à nous, dans cette petite église de la fin des temps. Toutes les personnes différentes avec lesquelles nous sommes entrés en contact au cours de nos années de conversion. Tout était-il parfait? Bien sûr que non. Nous grandissons tous. Nous avons tous des moments difficiles dont nous tirons des leçons et nous nous améliorons. Imaginez le nombre de personnes avec lesquelles le peuple de Dieu a eu des relations au fil des ans, de simples connaissances, et l'impact que cela aura. En tant que personnes libres, qui n'utilisent pas leur liberté pour se couvrir de malveillance, mais en tant que serviteur de Dieu. Non pas en disant, « Oh, je ne suis pas comme les autres ici. Je suis meilleur que tous. » Non, nous ne voulons pas utiliser notre liberté comme une couverture de malveillance. Nous ne voulons pas avoir de mauvaises intentions envers les gens de la société simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous comprenons. Non. D'autant plus qu'elle doit nous pousser à vivre d'une manière qui leur fera réaliser, vous savez quoi? Cette personne, je ne comprends peut-être pas tout de sa façon de vivre. Je ne suis peut-être pas d'accord avec tout ce qu'elle vit, mais elle est différente. Et quand l'heure viendra, peut-être dans cette vie, c'est peu probable, mais quand l'heure viendra de réaliser ce qui se passe, quel impact nous pouvons avoir sur eux juste par notre exemple? Honorez tous les hommes, aimez la fraternité, craignez Dieu, honorez les serviteurs du roi, soyez soumis à vos maîtres en toute crainte, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont rebelles, car il est digne d'être remercié si un homme, par conscience envers Dieu, endure des peines, souffre injustement. Car quelle gloire y a-t-il à ce que, lorsqu'on vous châtie pour vos fautes, vous preniez patience? Mais si, lorsque vous faites bien et que vous souffrez pour cela, vous prenez votre mal en patience. Cela est acceptable devant Dieu. Car même ici sur deux vous avez appelé parce que, voici notre exemple, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Je pense que c'est Paul, en fait je sais que c'est lui, qui a dit « Suivez-moi comme je suis Christ ». Paul a imité Christ. Nous imitons Christ, Paul et d'autres qui ont de bons exemples. Eh bien, nous allons être les exemples des masses. Incroyable. C'est une chance inouïe qui nous est offerte. Nous devons laisser briller nos lumières maintenant pour le bien de ceux avec qui nous entrons en interaction maintenant, pour leur bien maintenant et plus tard. John Luce aurait pu éviter tout cela, aurait pu éviter tout cela. Revenons à John Luce. Pourtant, malgré son impénitence persistante, nous ne voulons jamais rester dans cet état, mais malgré son impénitence persistante, Dieu ne l'a pas abandonné. Mais parfois, la miséricorde prend des formes difficiles. L'épreuve n'a fait que s'intensifier. Verset 17. Le Seigneur avait préparé un grand poisson pour engloutir Jonas. Pensez à ce terrible serpent qui a avalé Péco, c'est si triste. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, et l'épreuve dura jusqu'à ce que, chapitre 2, verset 1. Jonas pria le Seigneur son Dieu hors du ventre du poisson. Vraisemblablement, à la fin de ces 3 jours et 3 nuits, imaginez être dans ces circonstances et ne pas crier à Dieu minute 1. La dernière fois que j'ai été avalé par un poisson, j'ai commencé à prier immédiatement. Oui, c'est facile à dire. C'est une histoire extraordinaire, mais il semble qu'il ait fallu 3 jours pour qu'il revienne à lui. Jonas pria le Seigneur son Dieu dans le ventre du poisson et dit, « J'ai crié au Seigneur à cause de mon malheur et il m'a entendu, j'ai crié du ventre de la gêne et vous avez entendu ma voix. » C'était un type de mort. Il s'agissait d'une sorte de mort. Il s'agissait d'une situation plutôt basse dans laquelle il se trouvait. Car tu m'as jeté dans l'abîme, au milieu des mers, et les flots m'ont environné. Tous tes flots et tes vagues ont passé sur moi. Alors j'ai dit, je suis perdu de vue, mais je regarderai encore vers ton saint temple. Jonas s'est repenti. J'ai été rebelle, mais est-ce que je regarderai de nouveau vers ton saint temple? Je vais te chercher à nouveau, Dieu. Les eaux m'ont entouré. Pensez à la pression qui régnait en bas. Dieu a dû le préserver de façon surnaturelle. Je veux dire que les sucs digestifs à eux seuls auraient probablement pénétré son crâne en l'espace d'un jour ou deux. Je ne connais pas la science, mais Dieu a manifestement dû le préserver d'une certaine manière, tout en le laissant faire l'expérience de l'état répugnant dans lequel se trouve un poisson qui nage sous l'eau, sans nourriture ni rien, pendant quelques jours. C'est horrible. Les eaux m'entouraient. La pression. Je ne sais pas ce que cela aurait été. Jusqu'à l'âme, la profondeur m'a fermé la porte. Les mauvaises herbes s'enroulaient autour de ma tête. Quand j'étais petit, à l'école du dimanche, et que j'entendais cette histoire, j'imaginais peut-être Jonas assis sur une chaise dans le ventre de la baleine, mais selon toute vraisemblance, il était juste, vous savez, probablement le visage sur la paroi de l'estomac, juste qui sait ce que ce poisson avait mangé d'autre, à quel point il aurait senti mauvais si on avait laissé les acides commencer à dissoudre sa peau. Il avait ses algues, ses mauvaises herbes, enroulées autour de sa tête. Une situation terrible. Je suis descendu au pied des montagnes. Ce poisson est donc descendu jusqu'au fond. Il y a des montagnes géantes au fond de la mer. La topographie du fond de l'océan n'a pas encore été explorée. La Terre, avec ses chaînes, m'a toujours entouré. Mais tu as, ô Dieu, tiré ma vie de la corruption. Essentiellement, de la mort. Lorsque mon âme s'est évanouie au-dedans de moi, lorsque l'épreuve a atteint son but, je me suis souvenu du Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. L'objectif de l'épreuve a porté ses fruits. Ceux qui observent les vanités mensongères abandonnent leur propre miséricorde. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice avec une voie d'action de grâce. Je paierai ce que j'ai promis. Le sel vient du Seigneur. Le Seigneur parla au poisson, et il vomit Jonas sur la terre ferme. C'est étonnant. Dieu a communiqué avec ce poisson et Jonas a appris une leçon. Il a changé d'attitude. Il s'est repenti et Dieu lui a dit, « D'accord. Cela suffit. » Il a appris une leçon. Je vais me calmer. Parfois, l'épreuve se poursuit, mais une fois que nous avons répondu, Dieu répond. Jonas a appris, Dieu a répondu, ce qui met en lumière la quatrième leçon. Les épreuves, la douleur comme on l'appelle, mettent en marche le mécanisme d'apprentissage. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, j'aimais beaucoup jouer avec de l'argile, construire différentes choses, des maquettes et autres, mais l'argile coûtait cher. Alors parfois, ma mère m'aidait à faire de la pâte à modeler, qui était essentiellement composée de farine, de sel, d'eau et peut-être d'une autre substance dont je ne me souviens plus. Quelqu'un me le dit au premier rang, mais je ne sais pas lire sur les lèvres. J'aimerais bien, car c'est une substance très intéressante. Si vous êtes jeune, vous voulez de l'argile bon marché, essentiellement. Je voulais modéliser un orque que j'adore. C'est la plus belle des baleines, et je... Elle avait l'air très bien, mais sa nageoire dorsale n'arrêtait pas de se renverser. J'ai donc installé un cure-dent dans le corps de la baleine, pointant vers le haut et maintenant la nageoire vers le haut, et c'est presque terminé. Mais quelque chose ne va pas et je commence à être frustré. Et finalement, j'ai perdu la boule. J'ai appuyé ma main sur l'orque, je l'ai relevé et j'ai vu un cure-dent dépasser de ma main. C'était l'une des plus douloureuses. Je suis encore. C'est probablement le premier souvenir de douleur que j'ai eu en tant qu'enfant. Mais littéralement, je l'ai ramassé et le cure-dent sortait de ma main. Je l'ai frappé si fort et il était si perpendiculaire à la table qu'il m'a transpercé. J'ai appris à ne plus être aussi frustré par les projets. La douleur a enclenché le mécanisme d'apprentissage. Il s'agit là d'un exemple physique, mais la Bible en parle à maintes reprises. Pas à propos des baleines, des cure-dents et des garçons, mais dans l'Ecclésiaste 7. Vous savez, j'ai appris une leçon profonde à ce moment-là. Ne soyez pas stupides. Et je dirais que nous avons tous dû apprendre cette leçon, et je l'ai apprise bien d'autres fois depuis. Cela arrive, mais pas de cette manière particulière, mais vous comprenez. Ecclésiaste 7, verset 3, Salomon dit, la tristesse vaut mieux que le rire, car c'est par la tristesse du visage que le cœur s'améliore. Lorsque nous traversons différentes épreuves et que nous en prenons note, nous nous disons, oh, vous savez, ce, peut-être que je ne devrais plus agir comme cela. Et nous devenons meilleurs. Notre caractère s'améliore. Nous grandissons. C'est le but de tout cela. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, mais le cœur des insensés est dans la maison de joie. Oui. Nous devons profiter de la vie. Cela ne va pas à l'encontre de tous ces versets. Jacques, chapitre 5. Jacques 5, et le verset 10, Jacques dit, prenez mes frères, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, comme exemple de souffrance, d'affliction et de patience. Voici que nous comptons heureux ceux qui endurent, non pas à cause de ce qu'ils traversent, non pas oh, oh là là, ils traversent une épreuve, oh comme il ou elle doit être heureux ou heureuse en ce moment, non. Nous comptons les heureux qui endurent à cause de ce qu'ils produisent à long terme. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin du Seigneur, que le Seigneur est très pitoyable et d'une tendre miséricorde lorsque nous apprenons les leçons et que nous grandissons. Il est l'enseignant par excellence. C'est cette même pression qui a fait du Christ notre grand prêtre, Hébreux 4. C'est cette même pression, cette même douleur qui a enseigné Christ. Elle enseigne aux petits garçons. Elle enseigne aux prophètes. Elle nous enseigne. Elle a enseigné Christ. Hébreux, chapitre 4. Voyons donc, verset 14, que nous avons un grand souverain sacrificateur qui est monté aux cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons fermement notre profession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, qui ne s'identifie pas à nos souffrances, pourrait-on dire autrement, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne s'identifie pas à nous, au contraire, il a été tenté en tout comme nous, et il l'a fait sans commettre de péché. Il a parfaitement supporté ses épreuves. Il a appris toutes les leçons que nous devons apprendre. Il n'a pas fait d'erreur et n'a pas eu à apprendre des leçons, mais encore une fois, les épreuves peuvent venir même si nous ne faisons pas d'erreur. Les épreuves viennent parce que Dieu fait une grande œuvre en nous. Le chapitre 5 dit, bien qu'il soit un fils, verset 8, bien qu'il soit un fils, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a endurées. Souffrir signifie éprouver une sensation, généralement douloureuse. Cette pression l'a transformé et rendu parfait grâce à ce qu'il a souffert. Il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Cette pression, ces épreuves, il n'est pas nécessaire de s'attarder ici car nous avons déjà vu que les épreuves arrivent. Il s'agit plutôt de l'objectif de l'épreuve. Cette pression est transformatrice. Encore un verset à ce sujet. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 15. Tout est pour vous, afin que l'abondance de la grâce, par les actions de grâce d'un grand nombre de personnes, serve à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous lassons pas. Mais si l'homme extérieur périt, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nos légères afflictions, les pressions que nous subissons, les épreuves que nous vivons, les tribulations que nous subissons, ne durent qu'un instant, c'est relativement court dans le grand ordre des choses. Une période de temps physique ne peut même pas être représentée comme une fraction de l'éternité. Ce n'est qu'un moment, mais il nous apporte un poids de gloire bien plus grand et éternel. Il travaille en nous, ses pressions, ses épreuves, vers un poids éternel de gloire. C'est étonnant. C'est pourquoi Paul a dit ailleurs que nous nous glorifions dans les tribulations. Si vous deviez lire le reste de Jonas, Vous le reprendriez au chapitre 3, vous verriez que Jonas est allé à Ninive. Il a averti, et il y a eu une réponse, mais Jonas était contrarié par cela. Il était contrarié par le fait que ses ennemis mortels de son peuple se soient repentis. Et, comme on pouvait s'y attendre, Dieu a été contrarié par sa nouvelle attitude. La suite du récit le confirme. Jonas a perdu de vue ce que nous pourrions appeler la cinquième grande leçon que nous voyons dans ce livre, et elle est étroitement liée au fait d'être un bon exemple. Il n'est donc pas nécessaire d'insister sur ce point, mais nous ferons une distinction ici. La cinquième grande leçon est que notre but est d'aider les autres. Notre but est d'aider à élargir la famille de Dieu. C'est en partie ce que nous faisons en étant de bons exemples. Jonas a eu l'occasion de convertir ou au moins d'enseigner à un grand nombre de personnes la voie de Dieu. Et lorsqu'ils ont répondu, il a eu une mauvaise attitude à ce sujet. Mais heureusement, nous allons lire un autre verset dans Jonas. Heureusement Dieu ne l'a pas abandonné parce que Jonas 4, au verset 2, en fait au verset 1, Jonas fut très mécontent que Dieu ait épargné ce peuple, et il fut très irrité. Il pria le Seigneur et dit, « Je te prie, Seigneur, n'est-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» Nous en apprenons davantage sur les raisons pour lesquelles il ne voulait pas partir. C'est pourquoi je me suis enfui auparavant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et d'une grande bonté, et que tu te repens du mal. Maintenant, Seigneur, je t'en conjure, ôte-moi la vie, car il vaut mieux que je meure que je vive, parce que ces gens se sont repentis. Cet homme qui venait d'être avalé par un poisson et qui devait parcourir une grande distance n'était-il pas très confus? Comme un autre homme me l'a dit hier soir, j'ai entendu dire que la distance entre l'endroit où le poisson l'a déposé sur le rivage et l'endroit où il a marché pouvait atteindre 500 miles. Cet homme était-il si confus qu'il était contrarié par le fait que ces gens s'étaient repentis et avaient épargné leur vie physique? Mais heureusement, le même Dieu que Jonas a cité comme étant miséricordieux, lent à la colère, d'une grande bonté, et qui s'est repenti du mal, heureusement, ce même Dieu travaillait toujours avec cet homme qui a mené une vie conçue pour nous enseigner de grandes leçons. Il a mené une vie qui a finalement abouti à un événement qui symbolise l'immersion du Christ dans le sol pendant 3 jours et 3 nuits. À la fin du livre, Dieu faisait encore subir des épreuves à Jonas. Vous vous souvenez probablement ou vous voulez peut-être revoir cette gourde avec laquelle Dieu lui a fait de l'ombre et a ensuite envoyé un ver pour le dévorer. Pour lui apprendre, tu es contrarié par ces gens. Tu es contrarié par cette calebasse qui te faisait de l'ombre et qui se desséchait. Tu voulais que tous ces gens se dessèchent. Dieu travaillait encore avec lui parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Il est ce Dieu lent à la colère. Il est ce Dieu qui veut donner des chances aux gens, encore et encore et encore. Il veut que tout le monde réussisse. Il a continué à travailler avec Jonas jusqu'à la fin, mais je dirais qu'avec cette attitude, Jonas aurait dû répéter le cycle que sa vie, les événements de sa vie nous ont appris. Il doit se rendre compte que le christianisme consiste à faire des choses difficiles. Il doit se rendre compte que les épreuves sont inévitables, que son exemple est important et qu'il doit apprendre de ses épreuves et ne pas commettre les mêmes erreurs. Et qu'il ne doit jamais perdre de vue la vision d'ensemble de ce dans quoi il est engagé, en aidant d'autres personnes à réaliser ce qu'il cherche à réaliser. Frères et sœurs, le signe du prophète Jonas était important, mais le cycle du christianisme décrit dans son livre l'est tout autant. Souvenons-nous que les leçons sont faciles à comprendre.